Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Antoine Bolodine, qui publie Écrivain aux éditions du Seuil. Être écrivain ne signifie pas pour nous parader sous les projecteurs ou devant un micro. Être écrivain signifie pour nous murmurer derrière des grilles, dans l'angoisse de la mort, de la folie et de l'incarcération à perpétuité, sans attendre une rétribution, ou alors seulement l'affection que nous portent nos camarades et nos sympathisants à l'extérieur des murs. Nous aimons pleurer en face de la beauté. Nous sommes étrangers au jeu abstrait, à l'hermétisme stérile, à l'absence de passion, à l'absence d'image. Antoine Bolodine, vous l'avez commencé dans l'univers de la science-fiction, même si vous êtes toujours défendu d'avoir écrit des livres de science-fiction. Mais c'était dans la collection Présence du futur, chez De Noël, au milieu des années 80. Des romans d'ailleurs qui ont été depuis réédités en un seul volume, hein, où on trouve tous les titres publiés dans cette collection. Biographie comparée de Jorian Murgrave, Un navire de nulle part, Rituel du mépris, Des enfers fabuleux. Ensuite est venue une série de livres aux éditions de Minuit, avec Lisbonne, Dernière marche pour commencer, et l'apparition à ce moment-là d'un terme qu'on va retrouver aujourd'hui, qui est en fait, qui désigne une catégorie littéraire qui s'est imposée peu à peu au fur et à mesure que vos livres allaient l'illustrer, c'est la catégorie du post-exotisme. Il faut peut-être rappeler en quelques mots de quoi il s'agit. Une catégorie qui, par ailleurs, admet des genres littéraires qui ne ressemblent pas à ceux que nous pratiquons habituellement.
Catégorie littéraire, oui, mais on pourrait parler avant tout de construction littéraire, puisque derrière ce mot un peu pompeux et terminé en isme, je crois qu'il n'y a pas énormément de théorie, mais beaucoup de pratiques d'écriture, de construction littéraire, justement. Effectivement, à partir du début des années 90 est apparu ce nom, ce terme qui me permettait de m'écarter de cette étiquette que, vous l'avez souligné, j'ai toujours refusée pour mes livres, qui était celle de science-fiction. La première fois que j'ai utilisé ce terme, c'était à la suite d'une question d'un journaliste qui me demandait ce que j'écrivais, dans quelle catégorie littéraire justement je me rangeais, et par boutade j'ai inventé immédiatement quelque chose et j'ai dit j'appartiens à l'anarchisme post-exotique, et à partir de là je me suis je me suis satisfait de cette idée de créer une étiquette pour renvoyer, non pas un courant littéraire, mais pour renvoyer à mes livres, pour pouvoir en parler plus facilement. Et puis, peu à peu, effectivement, au milieu des années 90, ce qui existait de façon intuitive, ce mélange des voix, cette existence d'auteurs intervenant à l'intérieur des livres, s'exprimant de façon clairement identifiable, comme dans Lisbonne, Dernière Marge, par exemple, où des communautés d'écrivains prennent la parole successivement, je me suis rendu compte que cette construction de chaque livre sur des voix différentes, sur des fragments qui se combinaient pour faire du roman, eh bien, c'était quelque chose qui m'appartenait et que l'on pouvait ranger sous une étiquette. Et le mot post-exotisme vide au départ, ce terme s'est rempli, non pas avec de la théorie, mais avec des exemples. Mmh. Et tous les livres parus sous ma signature ou ensuite sous d'autres signatures, se réclamant du post-exotisme, définissent ce qu'est le post-exotisme. Alors il s'agit bien d'un, non pas d'un courant, mais d'un édifice littéraire, d'une vaste construction, d'un univers qui renvoie, bien sûr, à beaucoup de choses qui sont communes aux différents auteurs qui s'en réclament, mais qui permet aussi de décliner très, très largement les possibilités offertes par ce qu'on appelle le roman à la manière post-exotique, en insistant sur le mélange des voix, sur l'identité, la fragmentation du sujet, de la narration, du sujet, et l'émergence, grâce au texte, de personnalités, d'auteurs qui passent du statut de personnage au statut d'auteur véritable. On le verra à partir de la fin des années 90, où apparaissent des auteurs qui signent des livres, qui éditent des livres, qui publient des livres chez des éditeurs réels et différents, des gens comme des auteurs comme Eli Kronauer, Manuela Dreger, Lutz Bassmann.
Donc hommes et femmes.
Hommes et femmes, bien entendu, puisque depuis le début de cette production, et c'est très net, je pense, depuis le début, cette communauté de voix, cette communauté d'auteurs, qui sont aussi des auteurs combattants, on en parlera peut-être, est formée d'hommes et de femmes de façon très nette. Les femmes sont présentes depuis toujours dans ces livres.
Donc vous, Antoine Volodine, vous êtes devenu une sorte de porte-parole de plusieurs écrivains, comme en témoigne cette rentrée littéraire, les trois livres publiés dont nous allons parler cette semaine. Celui que vous signez de votre nom, Antoine Volodine, encore faut-il savoir si c'est bien votre nom, Antoine Volodine, écrivain au Seuil dans la collection Fiction et compagnie. Celui que vous présentez sous le nom de Lutz Bassmann, Les Aigles Puent, aux éditions Verdier. Et celui signé Manuela Dreger, 11 rêves de suie, aux éditions de l'Olivier.
Porte-parole, oui, je me réclame de ce statut de porte-parole. Dans un premier temps, je suis porte-parole, on va dire, de mes livres, porte-parole de mes personnages. Mais à partir du moment où ces personnages, auteurs, écrivains, ont dépassé leur statut de personnage pour exister concrètement grâce au texte, et à partir du moment où ils sont édités, je pense qu'ils existent véritablement dans la réalité. Ils n'existent pas physiquement, mais ils existent littérairement et concrètement, éditorialement. Et à partir de ce moment-là, je prends la responsabilité de parler à leur place et de défendre leur écriture, leurs écrits, comme un éditeur pourrait le faire de ses auteurs.
Donc on voit bien qu'il y a un jeu serré entre la fiction et la réalité. La fiction post-exotique vous rattrape, Antoine Volodine, puisqu'elle vous donne une existence fictionnelle de porte-parole de ces différents auteurs.
Oui, c'est un jeu serré, c'est un jeu en général, et c'est agréable en tant que jeu, parce qu'il y a, bien sûr, dans cette construction, un côté très sérieux, littéraire et poétique, et une intention romanesque et poétique, mais il y a également une intention ludique que je ne cache pas et qui est liée au très vieux projet de qui est déjà exprimé à plusieurs reprises dans les premiers livres et dès les années 80, qui est de tenter, au moins par les textes, de subvertir le réel, d'entrer dans la réalité d'abord en posant des textes bizarres, des textes ne ressemblant à rien, venus d'ailleurs et allant vers l'ailleurs, et qui par leur simple présence modifient légèrement autour d'eux et là où ils se trouvent la réalité. Et puis il y a ce jeu un peu plus difficile à mener et plus concret de transformation de la réalité en transformant, par exemple, une rentrée littéraire en faisant apparaître des auteurs qui sont d'ailleurs qui sont pas nouveaux, qui ont une œuvre derrière eux, mais qui ont à moitié une existence physique, à moitié une existence réelle, à moitié une existence imaginaire, ça fait beaucoup de moitié, et c'est un jeu un peu anarchiste de subversion du réel, y compris du réel éditorial.
Alors, ces écrivains post-exotiques qui signent des livres en cette rentrée littéraire, vous auriez pu parfaitement décider, Antoine Volodine, de les laisser vivre leur vie et de cacher le lien qui peut exister entre eux et vous. Et au contraire, vous avez choisi de l'affirmer cette fois-ci. Il y a, par exemple, une brochure qui a été éditée par les trois éditeurs publiant les livres de cette rentrée, c'est-à-dire celui de Manuela Dreger, Lutz Bassmann et le vôtre, pour révéler un peu le poteau rose.
En réalité, le poteau rose a été révélé il y a bien longtemps, il y a 15 ans ou plus, à partir du moment où le mot post-exotisme a été utilisé pour raconter, donc pour créer une fiction, qui était raconter l'origine de la parole post-exotique, qui est une origine, on peut dire, chorale, une origine collective. Plusieurs écrivains emprisonnés pour des raisons politiques, en train de devenir peu à peu neurasthéniques, schizophrènes, coupés de plus en plus de l'extérieur.
Des survivants.
Des
survivants.
Des survivants également, survivants d'une défaite politique absolue.
Une révolution définitivement impossible.
Ce sont des révolutionnaires vaincus. On pourra revenir dessus si vous voulez. Cette communauté s'est affirmée multiple et avec de nombreux membres dans un petit livre qui s'appelait « Le post-exotisme en 10 leçons », leçon 11, qui est paru en 98 et qui, là, faisait le point déjà, était une étape importante d'affirmation de cette multiplicité des voix, de cette multiplicité des auteurs.
Mais d'auteurs-personnages.
D'auteurs-personnages. Et aujourd'hui, je pense que Après plusieurs années d'existence discrète de Lutz Bassmann et de Manuela Dreger dans le monde éditorial, on est arrivé à une autre étape qui est l'existence proclamée de plusieurs auteurs qui travaillent ensemble, qui sont ensemble, qui affirment la communauté de ces voix, la communauté de ce projet, qui affirment que le collectif post-exotique, d'auteurs post-exotiques, n'est pas une petite intuition, mais est concrètement entré, ancré dans le réel, de la littérature française.
Mais c'est un collectif qui ne parle que d'une seule voix, la vôtre.
Alors, pas du tout. Quand je suis porte-parole, bien sûr, physiquement, il n'y a qu'une seule voix, mais les livres, les textes de Bassmann, de Dreger, de Kronauer, portent des voix qui sont différentes, viennent de ce même ensemble idéologique et poétique et romanesque dans lequel nous puisons. Chacun le fait à sa manière, mais chacun a son écriture, son langage, sa langue. Et ça, on le verra, on le voit à la lecture. On parlera demain de Manuela Dreger, par exemple. Manuela Dreger est un auteur post-exotique qui a un monde tout à fait à part dans le post-exotisme, de même Elie Kronauer ou Lutz Bassmann. Alors, bien entendu, je suis un seul. Physiquement, il n'y a pas de supercherie. Il s'agit bien de personnages. Il ne s'agit pas d'inventer des êtres inscrits dans la réalité physiquement et cachés. Non. Il s'agit au contraire de bien rappeler que nous sommes en face d'auteurs imaginaires. Mais ces auteurs imaginaires perdent leur caractère abstrait et d'invention à partir du moment où ils existent dans la réalité éditoriale.
Donc, Antoine Volodine, vous nous dites qu'il y a des formes spécifiques dans lesquelles on peut reconnaître chacun des auteurs qui se réclament du post-exotisme. Quelles sont-elles, ces formes spécifiques, pour chacun d'eux ?
Eh bien, il faudrait parler de Lutz Bassmann uniquement pour voir en profondeur quelle forme particulière à Lutz Bassmann font la singularité de sa voix. Même chose pour Manuela Dreger, on le fera peut-être un jour. Mais pour l'instant, je pense que on peut dire que une même référence existe chez tous ces auteurs et chez tous nos personnages d'une manière générale. C'est une référence indirecte, une référence mais très présente en même temps à l'histoire, à la réalité historique, aux catastrophes diverses du XXe siècle et de notre présent. Puisque le XXe siècle a débordé en catastrophe sur le XXIe siècle. Et donc, c'est cette mémoire historique très forte, elle est partagée entre nous et également entre les voix d'auteurs et l'inconscient ou la conscience ou la mémoire des lecteurs et des lectrices qui connaissent cette histoire. Ça, c'est finalement la base, la base continue de la mémoire à partir de laquelle les histoires surgissent, histoires qui sont ensuite transformées à la manière post-exotique, disons, par une sorte de filtre onirique, fantastique, poétique, qui déréalise cette histoire sans la nier et sans en faire justement de la science-fiction. Et chacun de nous a un tempérament différent dans cette approche du filtre onirique, et puis des techniques narratives aussi qui ne sont pas toujours les mêmes, qui d'un livre à l'autre, pour ce qui me concerne, essaient de ne pas se répéter, essaient de surprendre aussi, et puis d'explorer des techniques différentes. Et je pense que même si dans la manière post-exotique, on peut relever des constantes, comme l'utilisation du fragment, du rêve, de la combinaison, une combinatoire particulière entre rêve et réalité, même si on peut trouver ces constantes, je pense que chaque auteur a une manière très particulière de vivre cela. Et puis, même au niveau des sujets, des motifs, un auteur comme par exemple Elie Kronauer, qui
n'est pas présent
dans cette rentrée, travaillé uniquement sur les légendes épiques russes, les bilines, et en a fait des œuvres totalement revisitées par le post-exotisme, revisitées par lui. Mais c'est sa manière qu'on ne trouve pas chez d'autres.
Alors, est-ce que c'est au filtre onirique qu'ils le doivent? Mais tous ces livres développent une énergie assez remarquable. Est-ce que cette énergie peut être dite du désespoir, malgré tout, puisqu'on se situe dans un registre qui est plutôt celui de l'épuisement, de l'agonie, après la catastrophe?
D'une manière générale, presque tous les sujets qui sont développés dans tous ces livres se situent après la catastrophe. Mais si on regarde les sujets successifs de ces portraits d'écrivains dans le livre Écrivain, la catastrophe n'est pas la même. Elle est vécue de façon différente par chacun des écrivains qui sont mis en scène. Et effectivement, le lien considérable qui cimente ce livre écrivain et qui en fait un roman.
Oui, c'est, il est sous-titré roman.
C'est un roman, parce que il réfléchit d'une manière constante sur la nature de l'écriture, de la création littéraire plutôt, et il est vrai que tous ces personnages se rejoignent dans ce domaine dont vous parliez, qui est celui du désespoir, celui de la solitude. Ce sont des personnages qui sont tous soit en fin de vie, soit après la fin de vie, puisque, par exemple, Maria 313, qui court dans l'obscurité absolue et qui fait un discours devant un public qu'elle imagine, mais qui peut-être n'existe pas, eh bien, elle existe après son décès.
Et elle a perdu toutes les batailles.
Elle a perdu toutes les batailles, comme, alors tous ces écrivains ont perdu toutes les batailles, et des batailles au niveau physique, souvent ils sont atteints par la maladie, mourants, et au niveau idéologique, mais il n'en parle pas obligatoirement de façon très très nette, parce que c'est aussi une manière de renvoyer à tout ce qui a précédé dans les livres publiés sous ma signature, et qui reprennent souvent cette idée de défaite et d'avoir de défaite absolue après toutes les batailles.
Il n'y a pas que des vieillards parmi ces écrivains rassemblés sous le titre Écrivain dans ce livre que vous publiez dans la collection Fiction et compagnie au Seuil, Antoine Velodine, puisqu'il y a un garçon de 5 ans à peine alphabétisé.
Alors, il est mis en scène, mais celui qui est sur le devant de la scène, c'est un vieil écrivain qui a vécu sa vie, qui a perdu toutes les batailles, qui est enfermé dans un asile psychiatrique et qui se trouve être menacé par deux fous furieux qui l'accusent de contact avec des extraterrestres, enfin, et qui, après avoir pris le pouvoir dans l'asile, vont lui faire vont le tuer après avoir procédé à un interrogatoire auquel il ne répond pas. Il se refuse, la situation est désespérée pour lui, il se refuse à entamer le dialogue avec ses assassins, et il évoque, il se réfugie dans un souvenir d'enfance, de classe préparatoire, qui est où on voit, où on le voit, lui, pris de l'urgence d'écrire, alors que ses camarades et lui-même sont en train d'apprendre l'alphabet, d'apprendre l'écriture. Il sait à peine syllaber, mais il, brusquement, un matin, il sort de ce réel scolaire, il s'empare de feuilles de papier, enfin de protège-cahiers, comme autrefois il en existait, en papier semi-cartonné, et là-dessus, il commence à écrire une histoire. Alors, le premier mot qu'il écrit, c'est sur le titre, sur le premier protège-cahier, c'est « Commencer », qu'il écrit « C-O-M-A-N-C-E-R ». Et ça, c'est le début, c'est une sorte de manière de poser, d'affirmer que son rôle dans la vie, ça sera d'écrire. C'est un écrivain. Alors, son œuvre, au moment où il est assassiné, n'a aucune importance, n'a aucun écho, mais ce qu'il évoque et ce dans quoi il se réfugie, c'est ce texte d'enfant rempli de fautes d'orthographe, évidemment, écrit de façon phonétique, qui raconte une histoire d'arrivée de soucoupes volantes, de massacres par la police, de on ne sait qui, des rouges, des noirs, des verts, enfin des jaunes. C'est un fantasme de petit, mais ce qui est raconté là, c'est d'une part cette manière du vieil écrivain, de celui qui va être assassiné, de se réfugier dans un souvenir d'écriture, de s'y réfugier de façon intense. Il entre dans cette image, et c'est les dernières images de sa vie consciente. Et c'est d'autre part le souvenir très très intense de cette urgence d'écrire qui prend un petit garçon qui sait très profondément qu'il doit écrire et en même temps qu'il fait une histoire, qu'il fabrique une histoire, donc il est conscient de ça.
Oui, parce que quand on écrit « Commencer » comme il l'écrit, C-O-M-A-N-C-E, accent aigu, si je me souviens bien,
E-R,
on associe le commencement et le roman, hein, c'est romancé aussi.
Oui, alors, mais il n'y pensait pas. Il n'y pensait pas. Et son idée, c'est de terminer sa vie sur le verbe finir. Voilà. Ce qu'il réussit à faire, d'ailleurs. Et donc, là, dans ce chapitre que vous avez abordé, que nous abordons, je dois dire que je me suis permis d'introduire quelque chose de tout à fait autobiographique, parce que ce texte existe et il a été écrit dans les conditions que j'expose dans ce livre. Mmh. C'est-à-dire que je me souviens de façon très intense de cette fièvre d'écriture qui m'avait pris, et je me souviens du fait que autour de moi, d'une part, le monde n'existait plus, seule l'image dans laquelle j'étais entré, l'histoire, existait, et d'autre part, mon entourage, la classe, mon entourage social, eh bien, respectait cette bizarrerie d'un de ses membres qui, tout d'un coup, au lieu de faire école, faisait œuvre.
Là, le livre, vous l'avez intitulé « Écrivain » et il est clair que tous ces personnages rassemblés qui, effectivement, écrivent, ne ressemblent pas du tout aux écrivains tels que nous les représentons en cette rentrée littéraire, par exemple.
Tels que nous les représentons en cette rentrée littéraire, effectivement, mais tels que nous les représentons, nous, écrivains post-exotiques, oui, ils ressemblent à ces personnages qui sont très souvent mis en scène dans nos livres et qui ont comme caractéristique d'être coupés du réel, coupés de la société, exclus de la société, très souvent à l'agonie, très souvent dans la défaite, et se réclamant statutairement, dirais-je, par rapport à l'entourage humain, se réclamant d'une infériorité qui est souvent proclamée. Nous sommes des Untermenschen. Et la société, la plupart du temps, dans ses livres, les traite comme des Untermenschen. Les met en prison, les bat, les torture, les massacre, et ce sont ces personnages infériorisés qui prennent la parole la plupart du temps dans nos livres. Qui prennent la parole, qui n'écrivent pas véritablement de livres, mais qui font œuvre littéraire en prenant la parole, en essayant de dire, non pas parce qu'ils veulent témoigner, parce que la plupart du temps, ils sont dans une telle solitude qu'il n'y a pas d'auditeur, il n'y a pas d'interlocuteur. Donc ce n'est pas tellement par rapport à un interlocuteur éventuel, ils veulent prendre la parole par rapport à la réalité pour que quelque chose, au moment où ils existent, affirme un rêve ou une possibilité autre que l'horreur qui les entoure.
Demain soir, Antoine Bolodine, vous nous parlerez d'un autre livre post-exotique, Les Aigles Pus, de Lutz Bassmann, qui est publié chez Verdier. Mais ce soir, c'était d'écrivain qu'il s'agissait. Écrivain, le roman que vous publiez au Seuil dans la collection Fiction et compagnie. Du jour au lendemain, Anne Franchini, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir.